et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Marceau, il a pris une petite pause. D'après moi, je l'ai épuisé. Une année quand même d'actualité comme ça. À travailler ensemble, il était plus capable de m'endurer. Fait qu'il a dit, prends la console. Puis fais-le avec nous l'autre que Jeff Fortin. Qui est là ce midi encore
oui,
une fois.
Toujours présent.
Puis il y en a un qui s'est dit, ah, c'est correct. Il a eu pitié un peu. Il dit, je vais venir faire le pit stop avec toi, Pascal. Salut, Denis.
Salut, ça me fait du bien de prendre un coup de jeune. C'est rare. Souvent dans la vie, je me trouve vieux. J'oublie des affaires. Je suis grognon. Puis je suis un vieux pantouflard, un vieux célibataire. Mais quand j'arrive ici, après Audrey Pinchot, et que je prends ses écouteurs à son volume... Là, je me console, puis je me dis, elle, à mon âge, elle va être fucking sourde.
Mais moi, je suis vraiment contente que tu m'entendes encore.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est tellement fort. Pour expliquer, là, c'est tellement fort que quand on arrive ici, on n'a pas besoin de mettre de son en studio. Tout ce qui sort de ses écouteurs, c'est l'air ambiant, le sonore.
Les quatre trucs les plus forts que j'ai entendus de ma vie, toutes catégories confondues, un show de Motorhead au Colisée. Un show de Jean Leloup à la salle François Brassard à Jonquière. Okay. Souvent, le premier show, on le trouve plus fort, plus bruyant que les autres parce que notre oreille n'est pas habituée.
C'est ton premier show à vie?
Oui. OK. Oui. Mon premier show de jeune adolescent, Jean Leloup et la salle à faire, la tournée de l'amour et sans pitié.
Pas rien, ça t'arrange le rouage en gigolo sur un sapristi de temps.
Puis les deux derniers, c'est deux paires d'écouteurs. Celle de Stéphane Gasse et celle d'Audrey Pinchot.
Stéphane Gasse, c'est vrai que c'est quelque chose. Audrey, là... À chaque fois, je dis, je suis inquiète, ma belle. Puis je suis sincère, je suis inquiète. Puis elle me dit, non, il paraît que tout est correct, j'ai fait des tests.
Tu sais, mon premier réflexe quand je prends une paire d'écouteurs, c'est toujours de monter un petit peu le volume. Puis là, j'avais monté le volume avant de les prendre. Puis là, je fais, pain chaud, mes tympans veulent fendre. Non, pas agréable.
Je me suis trompé d'écouteurs l'autre jour, puis c'est Pierre-Luc Gilbert contre Gilbert qui les a pris. Et il devait garder son calme, mais jouait ses switches. En jouant sur son casque d'écoute, ça, c'est aussi une des pires choses à faire.
C'est l'équivalent d'une décharge électrique pour les tympans.
Écoute, Denis, bon, tu vas pouvoir ajouter ton casque, mais tu vas pouvoir aussi ajuster ta bonne humeur, comme un peu certains employés de Poste Canada qui sont retournés au travail aujourd'hui. Ça suffit sur certains coins de rue d'entendre. Du moins pour l'instant, parce que ben, ça n'a pas tout réglé. On sait que les négociations vont encore avoir lieu, sauf qu'on les a retournés au travail en plein pour le temps des fêtes. T'avais-tu des colis en attente, toi? Ou...
Je fais pas partie des gens qui attendent grand stock, pour être bien honnête.
C'est quasiment triste, dis de même.
Ben, c'est que...
Pris comme solo, là, la station.
C'est quoi la date du début de la grève de Poste Canada?
Hey, je le sais plus. Ça fait-tu 2-3 semaines?
Je peux juste te dire que moi, j'avais pas encore commencé mon magasinage des fêtes.
Moi non plus.
Fait que j'ai prévu en conséquence. T'sais, dans ce temps là, c'est rare que les retardataires gagnent quelque chose.
T'as raison.
Mais là-dessus, là, nous autres, on a tous nos cadeaux de Noël parce qu'on les a commandés à des places qui livrent.
Vous avez gagné cette
oui,
fois
absolument,
Noël.
Oui, absolument.
Ah, moi, c'est la même chose. Rien de colis. Les cadeaux n'étaient pas commencés. Donc, la vie va être belle. Tout le monde va déballer son cadeau. Oh,
ça plein servi à être un homme cette année.
Plein de monde qui font de la livraison. D'ailleurs, saluer la gang de Club Jouet. Alex qui va revenir nous voir demain. Pour d'autres suggestions de cadeaux. D'ailleurs, j'arrive de là, Club Jouet.
On a joué à Jus du cul. Oui. Yannick et moi, la semaine passée. On a eu beaucoup de fun. Puis j'ai réessayé en fin de semaine avec d'autres mondes parce que je me dis, si ça passe avec Marceau, ça passe avec tout le monde. Et c'était vraiment le fun.
La semaine passée, on a fait une compile des meilleurs jeux de party pour le temps des fêtes. Si vous voulez aller le réécouter, là, c'est sur le blvd.fm, l'application Boulevard aussi. Il y a quelques nouveaux téléphones puis quelques variantes aussi de jeux que si vous êtes des amateurs, vous avez déjà essayé puis aimé.
Bon, puis vous allez pouvoir aller l'acheter en personne, comme ça va arriver en temps
il
dans
livre.
Vos mains.
Ils livrent.
Oui,
eux autres, ils livrent.
Let's go!
OK, je vais ajouter le son, justement, parce que nous autres, on parle fort, ça. On peut bien chialer sur ceux qui écoutent fort, mais nous autres, on parle fort. Puis il y en a qui ont parlé fort dans les dernières heures, puis pas nécessairement pour notre plus grand bonheur, mais quand on les écoute attentivement, il faut qu'on capte certaines affaires du genre, on va payer cash un tramway. Jeff Fortin, on apprenait ça aujourd'hui, puis Denis, c'est ça. Je me dis, ça a dû te faire rire.
Mais c'est parce que on dirait que depuis 2 mois, Jeff, l'hôtel de ville a trouvé un sac d'or.
Oui.
Ils se sont dit, hein, Il y a des millions qui dorment là, puis personne ne fait rien avec.
Pourtant, on nous a cotisé ses chats, ses foyers, sa
sur l'immatriculation.
Puis le sac d'or qu'ils ont trouvé, ben c'est la réserve pour la lutte au changement climatique. Ouais. Mais là, parti comme c'est là, quand les pôles vont fondre pour de vrai, là, ils nous
on n'aura plus rien.
On va avoir des patinoires réfrigérées, on va avoir un tramway, mais on n'aura plus de maudite
Un tram cité, Denis.
Oui, bien sûr.
Oui, le maire s'est défendu aujourd'hui, disant non, vous savez, là, il y a de l'argent dans cette réserve-là pour la rivière Lorette, là, 22 millions, là, on va le faire. Là. Mais t'sais, là, on fait des patinoires réfrigérées. Ouais. Et là, on a appris que cette réserve-là, ben, elle va servir au tramway.
Ben oui.
Parce que t'sais, c'est carboneutralité.
Écoute, tu peux étirer l'élastique tant que tu veux.
Tant que tu veux.
J'ai l'impression que pour les environnementalistes chevronnés, le tramway, l'utilisation de ce budget-là va mieux passer que les patinoires réfrigérées.
Oui, c'est clair.
Mais on dirait qu'on a trouvé des solutions passe-partout pour faire en sorte que cet argent-là ne dorme plus. Est-ce qu'il aurait servi ultimement à des choses autres? J'allais dire, on le saura jamais.
Ben,
on va peut-être le savoir plus tard.
Mauvais, t'sais, tout ce qui est inondation, tout en est un qui a goûté puis pas à peu près. Ouais. Si t'as pas été submergé une fois, t'as pas été submergé trois fois. T'sais, mais tout ça, ça aurait servi. Puis le fait que ça dorme, si c'est bien placé, puis je sais même pas si on peut placer à ville des montants.
Oui, il y a des montants placés là-dedans puis qui rapportent en intérêt.
Bon, bien là, merci de me le dire. Là. Vraiment, ça prend Jeff à quelque part, c'est sûr.
Mais tu sais, avant de se ramasser de l'argent, mettons, pour la lutte au changement climatique, ce qui est une bonne chose en passant. Je conteste pas ça, mais quand on a vu qu'on s'embarquait dans une pandémie, puis je prends un exemple parmi tant d'autres, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de se dire, oh, je pense qu'on va avoir des enjeux de santé mentale à la fin de tout ça, puis il faudrait peut-être ramasser de l'argent pour les sans-abri, pour les organismes qui viennent en aide aux gens, parce qu'on va sortir de là poqué. Peut-être que rétroactivement... c'est plus facile à dire que quand on commence la pandémie puis qu'on se dit on en a pour deux semaines puis après ça on va reprendre nos activités. Mais tu sais, on manque d'argent.
Tout le monde avait l'air bien, il faisait du pain, il allait courir, tout le monde avait l'air en santé mentale.
Mais on manque d'argent actuellement parce que les besoins ont explosé. Est-ce qu'on aurait dû prévenir une partie de cette hausse-là des besoins? Parce que là, bon, tant mieux pour la ville parce que ça y permet de régler un paquet de dossiers sans hausser les taxes de façon démesurée. Et on comprend que tout ça est fait pour être réélu dans le prochain mandat. Moi, j'ai l'impression, Jeff, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on ne pige pas dans cette réserve-là si on est dans le milieu du mandat ou si on est dans le début d'un mandat.
Non, puis ce qui me questionne là-dessus, c'est que là, en 2025, c'est 45 millions qu'on met dans la réserve climatique. Mais on fait tout de suite un in and out. Parce qu'on prend ce 45-là, puis là, patinoire réfrigérée, rivière Lorette et usine d'eau usée. Là. Donc, c'est là-dessus qu'on investit. Mais là, après ça, en 2025 et 2034, le montant dans la réserve climatique, puis là, c'est pour ça qu'on dit qu'on va le payer cash, fait, passe de 45 millions à 180 millions pour payer cash le tramway. Ça, c'est 135 millions de différence. Le maire Marchand nous disait, quand il a haussé le budget pour la sécurité publique de 20,6 millions, il nous disait ça, c'est 1% de plus de taxation.
Mm-hmm.
Fait que là, ça veut dire qu'on est à peu près 6% de plus de taxation. Et il nous dit la taxe ne montera pas.
Mais c'est déjà fait dans le calcul. Puis, tu sais, ça prend à toi, Jeff, qu'ils épluchent ces chiffres-là. Puis, moi, je me sentirais leurrée aussi sur un point. Il a pris pour acquis les gens qui ont tout ce qui est cause écologique, changement climatique, en se disant, bien, on travaille sur un réseau de transport en commun, ils ne seront pas fâchés qu'on la mette là-dessus.
Ouais.
Moi, il y a une affaire que j'aille dans la vie, c'est être prise pour acquis. Quand un genre de spéculation que tu fais à mon égard là, se cristallise puis que tu te sens ben content d'avoir cette opinion-là, puis elle changera pas puis t'es pas fluide là-dedans. À leur place, pour des affaires, tu sais, qu'on parle de débordement justement de rivières, qu'on parle de localiser des gens comme il se doit, si on parle justement de ce qui pourrait nous arriver en termes de catastrophes X, ouragans, autres, si on parle d'investir comme du monde dans le recyclage à Québec, puis ça c'est à base, mais on oublie souvent qu'il y a bien des affaires qui se ramassent à don. Là, si ça n'est pas investi dans ce genre de formule-là qui est plus écologique, qui est plus changement climatique, qui est plus... pendant que tu convaincs des gens de faire le fond puis que finalement ça devient ton fourre-tout, je trouve que tu prends aussi le monde pour des fourre-tout.
Je te dirais que dans la situation actuelle, moi, je suis pour toutes les initiatives qu'on a trouvées pour le fond. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord qu'on en prenne pour payer le cash, le tramway. Je suis d'accord qu'on en prenne pour des patinoires réfrigérées. Moi, fondamentalement, j'aime ça qu'on me fasse plaisir avec mon argent une fois de temps en temps. Puis le contexte change. T'sais, vous pouvez, vous autres, vous faire un budget où, à un moment donné, vous vous gardez un montant d'argent, je sais pas, moi, pour des vacances à Hawaï. Mais là, whoop, la maison, il y avait une erreur de structure dedans que vous saviez pas, puis finalement, vous avez besoin de 10, de 15, de 20, de 25 000 piastres. Le voyage vient de prendre le bord. Au départ, c'était de l'argent qu'on économisait pour le voyage, mais là, le contexte fait en sorte que on va prendre cet argent-là puis on va le mettre sur une autre priorité.
Si ça arrivait une fois de temps en temps, Denis, là, je serais d'accord avec toi, mais jusqu'à maintenant, ce fonds-là, là, n'a jamais ou presque servi à des vrais...
Qu'est-ce qu'on aurait fait avec? On peut pas... Je veux dire, un coup que les pôles vont être fondus, là, tu veux faire quoi avec ça?
Je l'aurais pas appelé
une cage pour l'ours qui va réussir à nager jusqu'ici.
Non, je n'ai pas financé les affaires de babouins aussi qui sont pas dans notre pays.
Fait que t'sais,
mais j'aurais pas appelé le fonds de cette manière-là. Parce que pour moi, ça parle de la façon dont tu fais de la politique. Appelle ça ton fonds de surplus, de problèmes, de je sais pas quoi.
Réserve aux infrastructures.
Réserve aux infrastructures. Appelle-le autrement. Parce que ça parle bien trop sur ta façon de faire de la politique puis de convaincre des gens de créer ce fonds-là puis de le mettre autrement.
C'est qui l'a créé, le fonds? C'est-tu de l'époque la bombe, ça?
Non, ça a été créé avec Bruno Marchand en collaboration avec la CMQ. À peu près toutes les villes en ont un maintenant. Puis j'avais assisté à la conférence de presse de ça, puis on disait ça va servir justement pour contrer l'érosion des terrains, contrer faire des bassins de rétention d'eau, améliorer nos usines d'eau usée.
Ce qui est essentiel à la base en passant.
Oui, exactement. Puis avec les changements climatiques, les pluies soudaines qu'on a, etc. Mais donc, c'était censé servir à ça.
Techniquement, Jeff, on fait des bassins de rétention d'eau. On fait juste les geler puis les réfrigérer sur le dessus.
Oui, c'est vrai.
Mais pense-en-y. Puis le jour où on a ces problèmes-là, qu'on ne voit pas nécessairement venir, qui peuvent arriver du jour au lendemain, comme quand une digue éclate parce qu'il y a des inondations, des affaires comme ça, est-ce qu'il va nous en rester assez? Puis à ce moment-là, on ne le sait pas. Ça va-tu arriver, ça va-tu pas arriver? Un peu comme tout le monde, on n'est pas à l'abri de ce genre de catastrophe-là. Sauf qu'il y a quelque chose dans la politique où je vois plus loin... Ou c'est comme de prendre son monde pour des idiots en disant avec tous vos fonds, la manière dont on va les investir, ça en importe peu parce que de toute manière, on n'est pas tant surveillé.
Au moins, il reste de l'argent d'un sac. Ottawa ne peut pas se vanter de ça actuellement.
Parlons-en de Justin Trudeau.
T'es en train de regarder sur Twitter si on n'a pas revu le déficit à la hausse dans la dernière heure. Là. Ça semble être beau pour le moment.
T'en attends encore plus.
Pour l'instant, on se maintient à une légère erreur de calcul de 22 milliards de dollars.
Légère erreur. Là, pendant ce temps-là, Justin Trudeau lui faisait un voyage de 4 jours en Europe pour 900 000 $ Puis ça, c'était sans compter... 200 $ dépensés en DVD pour le monde dans l'avion. Oui, c'était vraiment le fun. Il écoutait Wednesday. T'as-tu vu ça, toi, sur Netflix?
La série.
Fait qu'ils ont acheté des DVD. Il y a encore bien des choses qu'on comprend pas. Puis c'était pour aussi avoir d'autres repas dans l'avion parce que ça leur satisfaisait pas ce qui était servi dans l'avion. C'était un genre de... Je pense pour 4 jours, on a évalué ça à 1 500 hier par personne. C'est pas pire.
Exactement.
La vie est belle.
Puis, la vie est belle.
Saviez-vous que 22 milliards de plus sur le déficit, c'est 54,5 millions de dépenses de plus par jour?
C'est hallucinant. Hallucinant.
Puis il fait rire de lui. Là.
Ben là, oui, parce que là, rendu là, tu t'acharnes. C'est drôle, je cherchais hier, il me semble que j'ai vécu une situation qui ressemble énormément à celle de Justin Trudeau présentement, puis je le trouvais pas, puis je me disais, il me semble qu'on vit ça avec les collègues, puis personne réussit à mettre le doigt dessus. Puis finalement, je l'ai trouvé en m'en venant tantôt. Justin Trudeau, c'est Max Larouche. Max Larouche veut chanter. Personne veut que Max Larouche chante. On essaie de lui faire comprendre, on essaie de lui montrer des tableaux, on lui fait réécouter ce qu'il fait, ce qu'il enregistre, et ainsi de suite.
On publie pas tout ce qu'il chante.
On fait tout notre possible pour qu'il comprenne de lui-même. Mais non, Max veut chanter. Il s'accroche au pouvoir du micro alors que tout le monde le laisse tomber ou à peu près. Puis il y a juste lui qui se rend pas compte que... Il n'y a plus d'autre alternative. T'es rendu au bout de ton rouleau. C'est le temps de l'accrocher, ton micro.
Mais il n'a pas l'air effrité, comme Justin Trudeau, finalement. Ouais.
Fait que c'est un peu ça, Justin Trudeau, je pense. Rendu là, c'est de l'obstination qui frise peut-être... Je sais pas si c'est le pouvoir qui rend comme ça. Je sais pas si tu deviens un peu mégalomane sur les bords. Mais là, dans son propre parti, il y a énormément de gens qui disent « Ouais, c'est peut-être mieux que tu t'en ailles, qu'on mange une volée anyway aux prochaines élections, mais qu'on commence à bâtir autour de quelque chose de neuf. » Ça va brasser! Il me semble qu'on regarde pas souvent le spectacle à Ottawa à partir de Québec, étant donné qu'on a, un, l'Assemblée nationale dans notre cour, puis on check nos affaires ici à Québec aussi.
Puis il y a eu assez de spectacles à l'Hôtel de Ville cette année aussi. Mais, t'as rappelé-tu du coup de torse? On avait d'autres choses à voir.
Le Chess Gate.
Le Chess Gate. Mais le show va être bon. C'est déjà bon, je dirais, depuis le début de la semaine.
C'est bon, puis en même temps, écoute, moi, je me souviens, là, il y a des gens qui le défendaient parce que c'est une phrase, mais quand il s'était déguisé en voyage pour la culture d'eux, on se disait, ben au moins, tu sais, il va être capable d'avoir des relations diplomatiques intéressantes. Puis c'est même plus le cas. On fait rire de nous à l'international. Il y avait eu des journaux le lendemain de ses déguisements de la place qui riaient de lui. C'était en une. Et là, ce qui est en une aux États-Unis, tu penses, c'est quoi? C'est Donald Trump qui renie sur la démission de sa ministre des Finances, Chrystia Freeland.
Je recommence à le trouver drôle, lui.
Trump?
Je le trouvais plus drôle. Je le trouvais sénile, dangereux. Mais hier, il m'a fait rire. Le grand État du Canada, ça, c'est nous autres, est sous le choc alors que la ministre des Finances donne sa démission ou a été congédié de sa position par le gouverneur Justin Trudeau. Il étire, hein?
Il
lâche pas le morceau. Son comportement était totalement toxique et pas du tout en orientation, oui, à faire des ententes qui seraient bonnes pour les citoyens excessivement malheureux du Canada. Personne ne va la manquer. Je trouve ça
les citoyens
drôle.
Excessivement malheureux. Oui. Hey, lui, il beurre ça. Puis, rappelez-vous, il y a du monde qui prennent pour du cash, parlant de cash, aujourd'hui, on est là-dedans, c'est la thématique du pit stop, pas celui qui est dans nos poches, hein, celui qui sort de nos poches. Mais ce que Donald Trump dit, mot pour mot...
Mais il aime-tu son petit poppy? Il aime-tu son petit Justin Trudeau?
Non, c'est Dance for me, my puppet. Tu n'as jamais eu autant d'impact qu'aujourd'hui.
Et c'est la problématique à l'heure actuelle. C'est que Donald Trump est tellement en situation de force face à nous en raison de tout ce qui se passe en politique fédérale, puis en raison de la faiblesse. On n'a jamais eu un premier ministre aussi faible.
Puis quand t'as tout contre toi, le seul ami qui te reste, c'est l'ami que tu veux pas, qui t'appelle le gouverneur du 51e État.
Exactement.
Donc, il rit dans sa face. Il rit de Justin Trudeau sa face. Puis en même temps, il ajoute l'insulte à l'injure en disant « Moi, j'ai hâte de revoir le gouverneur bientôt afin qu'on puisse poursuivre nos discussions approfondies sur les tarifs douaniers, ce qui est extrêmement difficile en ce moment à avaler pour bien des entrepreneurs. » Il dit « J'ai tellement hâte de le revoir, mon ami, entre parenthèses, soit mon petit chien de poche, pour justement parler de ces tarifs-là. » Puis fort probablement gagner mon point.
Si Justin Trudeau veut vraiment partir en master mic puis dropper le micro avant de partir, il a juste à disparaître pendant une semaine et demie, deux semaines. Il convoque les médias puis il dit « Je vous ai entendu, je m'en vais. » Mais avant de partir, j'ai négocié avec Donald Trump. On est maintenant le 51e État américain.
Aïe, aïe!
Fuck y'all! Puis là, tu t'en vas.
Je vous ai bien compris, ce n'était pas pour une prochaine fois. Ça a passé. On est rendu à
c'est
États-Unis.
Réglé, c'est signé. Aïe, arrangez-vous. Aïe. Ciao, bye.
Le Québec a toujours voulu faire un référendum. Moi, il n'y a pas de référendum. Non. On s'en va 51e État.
Trump n'aime pas ça, la démocratie. On a signé ça entre nos deux.
Aïe, on rit, mais c'est pas drôle.
Non, non, c'est pas drôle. Ben, c'est parce que ça montre la faiblesse à l'heure actuelle de notre classe politique. Ouais. C'est hallucinant.
Puis on en parlera. Jérémy Guillaume va être à l'émission dans quelques instants. On va refaire un tour.
Puis j'ouvre une parenthèse que je recommande cette série documentaire-là qui est sur Netflix présentement, là, dans les trucs les plus écoutés. Vous allez le retrouver, la série sur Winston Churchill.
Tellement bon.
Qui a été le premier ministre en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis tu regardes la qualité d'homme et de politicien et le sort de millions de personnes que ces gens-là avaient entre les mains, l'importance des décisions qu'ils prenaient à tous les jours. C'était pas des messieurs parfaits, là. C'était des messieurs très orgueilleux. Winston Churchill, la première affaire qu'il faisait en se levant, il buvait. Faux. Avant de se lever, il prenait son premier drink.
Il était sur la traveineuse dans la nuit.
Il grillait des cigares un par-dessus l'autre, puis ainsi de suite.
Il était impulsif. Et ça aurait pu lui coûter énormément de politique, là.
Absolument.
Puis il l'appliquait.
Mais t'essayes... Puis je sais qu'on peut pas faire ça. C'est comme comparer, mettons, Wayne Gretzky puis Connor McDavid.
Oui, on peut pas.
C'est pas les mêmes
époques.
C'est
des époques différentes.
C'est le fun, mais je vous ai bien compris.
Mais regardez les politiciens qu'on a présentement, que ce soit à gauche, à droite, au fédéral, au provincial, au municipal, puis essayez de nous imaginer d'une guerre mondiale, mettons. Là.
Hey, je me suis posé la même question en écoutant le documentaire, mot pour mot, j'ai écrit dans la conversation avec Yannick avant qu'il parte, là. J'ai dit, nous autres, on serait fourrés.
Tu regardes en Angleterre, tu regardes au Canada, tu regardes aux États-Unis. Ouais, je pense qu'on serait tous devenus nazis en l'espace de 4 jours.
Tu regardes au municipal, tu regardes au provincial ce qui se passe, ils suivent tout. Puis Justin François Legault, c'est pas mieux, là, côté non. qualité non. chien de poche.
Mais tout le monde a eu une année 2024 horrible. Hier, je regardais, c'est une question de sondage que la presse a lancée. Qui a eu la pire année 2024 en politique? Hey, c'est pas un choix qui manque. Je veux dire, Justin Trudeau, évidemment, c'est lui qui est dans l'actualité ouais. présentement. C'est une année horrible.
François Legault,
c'est une année abominable.
Valérie Plante, elle part.
Elle s'en va, c'est pas pour rien.
Ben non.
Bruno Marchand a eu une très mauvaise année au total tout. Il est rendu passager dans les propres projets de sa ville. Si on veut étirer un peu, est-ce que Geneviève Guilbeault a eu une bonne année politique?
Non.
Québec solidaire a eu une année politique abominable. Éric Duhaime aussi, il a fait du surplace avec un projet qui se tient pas debout sur l'île d'Orléans. Je veux dire, on fait le tour de toute notre classe politique, à gauche, à droite, au centre, puis on se retrouve tous avec des mauvais bulletins, puis ça, ben c'est pas rassurant, la démocratie.
Et il y a des égos surdimensionnés qui font en sorte que quand certains quittent ou quand certains sont questionnés, il n'y a pas de possibilité d'établir une solution pour la suite, parce que les papiers ne sont pas échangés. Mm-hmm. Ça aussi, c'est problématique quand tu travailles au pouvoir de ne pas être capable d'interagir puis de donner. Puis, tu sais, il y a une réflexion que j'ai trouvée fort intéressante aux États-Unis aussi. Tu ne l'as pas tant nommé. Mais malgré tout, là, Donald Trump, avec son conseil de gens d'affaires économiques et autres, est-ce qu'on est plus... Ça va peut-être être loin, là. Mais quand on regarde, c'est quoi, mettons, un gouvernement oligarque, là? C'est souvent des gens qui se sont emparés du pouvoir économique en étant de la sphère économique et qui ont monté, justement, un genre de société sur l'économie. On n'est pas là-dedans aux États-Unis. Mais on est fort proche de ce que... Et je vous le dis, je mets toutes les nuances possibles, de ce qu'on voit en Russie, là. Côté de qui détient le pouvoir, la manière dont c'est détenu, qui s'enrichit, de quelle manière est-ce que le pouvoir est divisé. Un Elon Musk qui a autant de positionnel aux États-Unis, c'est risible et un peu inquiétant aussi.
C'est trop de bonheur. Donald Trump n'a pas un pied encore à la Maison-Blanche.
Mais je le dis pareil.
Voyons voir. Moi, j'ai l'impression que présentement, il est comme en mode bande-annonce de blockbuster. Vous avez déjà vu des bandes-annonces où le film a de l'air écœurant? Puis finalement, on s'assoit, puis après 2h30, on se dit « Ouais, il me semble que ça devait être plus gros que ça. »
Le contenu était dans bande-annonce.
Moi, j'ai l'impression que Donald Trump, présentement, est en mode bande-annonce. Il beurre plus que le client en demande pour, après ça, peut-être arriver de façon un petit peu plus smooth, puis montrer « Écoutez, vous me voyez tout comme le démon, finalement. » Ah, là, je l'envoie pas, mon 25 % de taxes. Gars, m'a flatté mon petit papy Justin, puis tout est correct.
On verra, comme tu dis.
Ben oui.
Mais là, on observe tout. Ça, c'est intéressant.
Ça a toujours été sa façon de procéder. Farnell Morrison nous en parlait à Rage Against le matin. Il dit Donald Trump a toujours visé très haut en public en ayant des objectifs différents en privé. Donc, dans la taxe du 25 %, il y a certainement ce type de stratégie-là. Fait que c'est pour ça que je te rejoins avec ton blockbuster.
C'est plus le positionnement du pouvoir. À qui il va le donner? Qui est-ce que, le gars qui était chef militaire, je suis vraiment désolée, mais même si tu pars en guerre mondiale en ce moment, ce gars-là qui était au-dessus de tout le monde pour gérer le militaire, c'est problématique. Ça reste nos alliés principaux.
Oh, concernant la taxe, on nous dit qu'à la Ville de Québec, on est prêt à offrir l'argent du Fonds environnemental pour payer notre part. C'est là qu'on va tout chercher, tout le temps.
Celui du municipal, là?
Oh oui, tout est bon.
Pour le Canada,
Denis. Oh, attendez, on me dit que la réserve climatique est maintenant redistribuée au Canada. On va diminuer.
Là, vous visez plus haut pour amenuiser les choses.
Bien que nous autres qui a de l'argent, ça.
Ça va vite, Denis. J'ai encore quelques minutes que je veux profiter avec toi puis Jeff, là. Il y a le meurtrier Sean Denver Lambert qui va pouvoir demander sa libération. Puis là, il y en a peut-être qui s'en rappellent pas, mais il a passé 21 ans en prison, ce gars-là. Et ça a poussé quand même beaucoup de réflexions chez plein de gens.
Un cambriolage qui a mal tourné à Val-Bélair, puis c'est un couple de personnes âgées bien tranquilles qui sont morts.
Ouais. Exactement. Il est rendu à 59 ans, le bonhomme, OK, après 21 ans de prison. Il va pouvoir faire cette demande de libération anticipée-là. Rappelons peut-être les victimes dans tout ça. Béatrice Lavoie, Maureen Lepage, effectivement, qu'il n'y avait rien derrière eux qui laissait présager une mort atroce, disons-le comme ça, ça reste un meurtre, et qui avait secoué la ville de Québec en entier, puis même la province pendant plusieurs semaines. On pensait que c'était un cas réglé, on avait même oublié le gars.
Ben oui.
Moi, je pensais plus du tout là, à ce gars-là. Toi, je sais pas si tu t'en souvenais, puis qu'il avait marqué ta tête.
L'histoire m'avait marqué à l'époque parce que ça brisait le cœur, tu sais. Je veux dire, des personnes âgées qui vivent paisiblement victimes d'un vol, puis finalement, ça se termine en meurtre, puis je pense que ça avait pris 6 ans réussir à épingler les deux personnes en question. L'autre personne qui bénéficie déjà, je pense, de permission concernant les libertés conditionnelles, et là, c'est ce qu'il demande, notre monsieur. Dans les dernières semaines, on a sorti beaucoup d'histoires dans les médias où la commission des libérations conditionnelles paraît très mal. Des dossiers qui sont encore lourds de doutes, mais qu'on décide quand même de prendre une chance. Et des fois, il y a des manquements quand on permet des sorties, mais on passe quand même à l'autre étape. Dans un cas comme celui-là, ça a l'air que le gars mène une vie de prisonnier modèle en prison. Probablement qu'il va avoir sa carte sortie de prison gratis. Puis en même temps, ben, c'est ça qu'on veut quand on met des meurtriers en prison. Mais c'est tellement facile, ça semble tellement facile de passer cette étape-là présentement, même pour des bombes à retardement, même pour des gens qui vont finir par récidiver. Il y avait une histoire d'un gars qu'on avait sorti après une histoire de meurtre, justement, qu'on l'empêchait à dernière minute de couper à la hache son ex, un soir qui a décidé qu'il était bien enragé. On a eu l'histoire ici à Québec, une prostituée qui est décédée, un gars qui était en libération conditionnelle,
ouais.
Qui était considéré comme un risque élevé. Puis
Gustavo.
Je m'excuse de ne pas me souvenir du nom de la victime, mais c'est une histoire où on se dit, mais là, tabarnouche, on l'avait, on le savait, puis on l'a quand même laissé retourner à l'air libre. L'idée de la prison, en tout cas dans ma tête, c'est pas
Marianne
juste...
Lévesque, la
oui.
Victime.
T'sais, c'est pas juste une sentence, c'est de nous protéger des gens dangereux, de les retirer de la circulation parce qu'on les a pognés à faire quelque chose qui est répréhensible, une agression, un meurtre ou whatever. Puis quand il y a ne serait-ce qu'un faible niveau de récidive, moi, dans ma tête de niaiseux, ces gens-là restent en prison, mais ça a l'air que c'est pas comme ça que ça marche.
Je parlais à une fille qui, elle, est à l'appli du côté de la prison. Fait que, mettons, c'est celle qui doit faire appliquer les mesures aux détenus qui sont en prison en fin de semaine. Puis le parallèle, c'était fou parce que j'étais avec du monde qui était au DPJ puis j'étais avec du monde qui était à la prison, OK? Puis ce qui est revenu puis qui a été le point commun, là, c'est que les gens qui sont en l'application des règlements trouvent ça bien stimulant, aiment leur job, mais sont aussi en beau sacrement contre ceux qui vont aller chercher les solutions et les mesures. Ils expliquaient ça comme, puis il y avait tout ça, là. J'avais une fille à DPJ qui est plutôt à l'inspection des cas, choisir si on sort l'enfant, choisir ça va être quoi les mesures à appliquer, puis après ça, bien, la personne va l'appliquer, tu comprends? Les deux étaient face à face.
Ouais.
Puis ceux qui vont aller tout travailler sur les mesures, OK? Ils vont être orientés par le côté administratif. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils suivent ce que c'est. Ils ont un guide, puis il faut que dans toute leur lucidité, dans ce qu'ils remarquent, dans ce qu'ils ont envie d'appliquer selon la situation, mais pas nécessairement envie eux, mais ce que le programme offre, là, ce que la DPJ, comment elle a été montée, offre, fait en sorte que c'est comme ça qu'ils doivent appliquer la solution. Au meilleur de leur connaissance, au meilleur de leur croyance par rapport au cas. Puis rendu à l'application, il y a d'autres choses qui sortent. Qui ne ressortaient pas auparavant, peut-être, qui ont peut-être été cachés,
ben,
qui ont peut-être pas été évalués, ce qui fait en sorte que tu n'as plus le choix. Toi, tu n'es plus la personne qui décide, tu es la personne qui applique.
Tu sais, à un moment donné, on se posait la question, « Hey, monsieur le policier, vous me donnez un ticket parce que j'allais trop vite ou vous me donnez un ticket parce qu'il faut que vous rentriez dans votre quota? »
Dans le quota.
Le fameux quota, là, que ça prenait un certain nombre de contraventions par mois. Moi, c'est la question de base que j'ai pour la commission des libérations conditionnelles. C'est quoi votre objectif? C'est-tu de protéger ceux qui sont dehors ou de sortir ceux qui sont en dedans parce que ça déborde? C'est quoi votre mandat premier? Parce que présentement, l'impression que ça donne, c'est que ça presse bien plus de sortir du monde
passer plein
que de les garder pour protéger ceux-là qui sont dehors.
Oui, puis dans le cas de Denver, Lambert, je le remercie pour sa franchise, mais il a avoué « I'm a fucking coke addict ». Puis il a dit qu'il va falloir qu'il, justement, restreigne des choses
drôle,
pour ne pas être exposé à ça lorsqu'il va sortir dans la communauté. Un petit trip de poudre, ça pourrait le ramener à des gestes violents.
Pourquoi on prendrait une chance?
Exactement.
Pis, mais on dirait que la commission des libérations conditionnelles, au lieu de dire pourquoi on prendrait une chance, ils te regardent et ils disent ben pourquoi pas.
Ouais, t'sais? C'est ça.
Pourquoi ça m'agace.
Mais je pense que ça doit en agacer certains aussi parce ouais. que le dit protocole, s'il s'est montré impeccable en prison, leur permet de leur donner, mais pas peut-être dans leur tête d'humain, mais plutôt dans leur tête de professionnel qui suit le guide. C'est à se questionner. C'est triste parce que la chance, prendre la chance, des fois, c'est prendre la chance que quelqu'un perde son
ben
proche.
Oui.
La meilleure façon de le tester, là, je suis à table de la commission des libérations conditionnelles, je laisse un couteau à droite puis une ligne de poudre à gauche, puis je laisse 5 minutes sans parler, puis je regarde ce qui se passe.
Comme on fait avec les enfants avec des bonbons, puis qu'on dit « Je reviens, tu ne touches pas aux bonbons avant que je revienne. »
C'est ça.
Ils sont filmés, là.
Il faut que je me pade aussi, je pense.
Merci, Denis Gravel.
Thank you, les amis.
C'était le fun, le Petit Top. On te retrouve demain midi, comme à l'habitude. Et bon, la conclusion de tout ça, c'est que peut-être que le fond climatique pourrait aussi servir à relever Lyon Électrique. C'est un pensez-y bien.
Oui, bonne idée.
Je vais payer mon salaire aussi. Pas de problème avec ça.
Ton surplus de salaire. Parce que tu voudrais quand même pas perdre ce que tu avais déjà. Hey, on revient. Vous êtes dans Marceau le midi. Marceau est en vacances. Il est dans le sud. Il revient assurément en janvier avec toute son énergie. Et c'est Jeff Fortin et moi-même, Pascal Cévé, qui vous accompagne. Merci d'être avec nous. Boulevard.